Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Stéphane Martin, qui s'occupe du camping de la Graville à Soult. Un endroit calme, en pleine nature, au pied des sites d'escalade, au départ de nombreux itinéraires de rando, situé au bord de la rivière, à 2 km du village, un endroit idéal pour se mettre au vert.
Ça fait 3 ans que j'ai repris le camping, j'ai eu pas mal de choses à remettre en état, à revaloriser, parce que c'était un camping municipal qui était depuis 25 ans entretenu, mais bon, pas animé, quoi, on va dire. Mais en plus, il y a une volonté... Enfin, pour ma part, une volonté de garder le camping dans l'état où il est le plus possible, naturel. La seule modification que j'ai faite, assez significative, c'est que j'ai rajouté un snack depuis 2 ans maintenant, parce qu'économiquement, c'était nécessaire. Et puis, il y avait quand même une demande. En fait, le snack, c'est évidemment une action commerciale, mais c'est aussi un lieu que je privilégie pour la rencontre, pour que les gens puissent se retrouver, pour s'installer simplement pour lire un bouquin ou pour faire un jeu. Dans le snack, il y a des jeux de société qui sont mis à disposition, donc il y a des gens qui viennent passer un moment, là, tranquille. Tous les gens sont les bienvenus dans la mesure où l'esprit et les autres sont respectés, et ça c'est pour moi très important. J'ai pas eu de mal à m'organiser, c'était déjà installé, donc j'ai fait que reprendre ce qui existait. Il y a 44 emplacements, la mairie m'a fait un agrandissement pour avoir un sanitaire handicapé. Donc du coup, depuis l'année dernière, le camping est accessible pour tous et c'est super. Il y a un sentier qui longe le camping, donc qui fait la liaison d'ailleurs entre Soult et la forêt. Donc il est très facile de partir directement du camping pour aller se balader, pour monter sur le Grand Pomerol, le Pas de l'Estang. C'est très très facile, hein, le chemin même mène les gens à pied au village en un quart d'heure. Il est sûr qu'à partir du moment où on peut marcher, on peut aussi faire du vélo. Il y a une association à Soult qui s'appelle les Tontons Dérailleurs. Du coup, ils ont fait un gros travail de balisage et d'entretien des sentiers. D'ailleurs, il est maintenant à disposition, je crois, 4 ou 5 topos à l'office de tourisme pour faire du vélo. Et puis ils ont un site sur lequel ils montrent toutes leurs expériences. Donc c'est très intéressant pour le vélo. Après, il y a la Drôme à côté. On peut bien évidemment faire du canoë, des choses comme ça. Et dans le camping, je mets à disposition des vélos. Donc ils sont là, chacun se sert comme il veut, pour aller se promener, pour aller au village, pour aller se baigner sur le Roubion par exemple. J'ai des habitués, qui reviennent pas nécessairement tous les ans, mais une année sur deux ou sur trois. Et puis des nouveaux tous les ans, bien sûr. Ouais. Il y a des gens qui viennent là depuis très longtemps, avant que je sois là, et même avant que le camping soit un camping. Et puis j'ai des gens qui viennent tous les ans, même date. Le fait que nous soyons présents, parce que ma femme est là souvent aussi, sur le camping, ça a créé quelque chose de différent de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que les gens venaient, ils connaissaient le camping, mais il n'y avait rien. Donc ils allaient grimper une journée ou deux, puis repartaient. Et là maintenant, je pense que les gens restent un peu plus longtemps. Et ils sont contents d'avoir du monde. Il y a une vie qui s'est créée dans ce camping et c'est bien.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotope, la BioValley en pratique. Diffusé simultanément à 18h le jeudi sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol et rediffusé le samedi à 12h10 et en différé sur Radio Méga. Une émission qui vous invite à découvrir les bonnes initiatives du territoire de la vallée de la Drôme. Ce jour, dans nos studios, nous visiterons en compagnie de Laurent Deret l'opération séduction J'aime Livron, qui permet de voir la vie en rose, paraît-il, tout au long de la semaine, sur Livron pour la Saint-Valentin. Laurent Deret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes premier adjoint de Livron, vice-président de la CCVD en charge du développement économique et président de l'association La Marque de Biovallée. Les priorités qui reposent sur vos épaules sont en matière de développement économique essentiellement ?
Alors développement économique et tourisme. En fait, j'ai encore une autre casquette, vous allez croire que je cumule les fonctions. Je suis également président de la commission tourisme du SMDVD, le syndicat mixte de développement de la vallée de la Drôme. Et je m'occupe effectivement également de la commission chargée de l'OCMMR, c'est un nom un peu barbare, l'opération collective de maintien du commerce en milieu rural. Et c'est d'ailleurs de cela, de cette démarche-là, que tout est parti.
Alors justement, on va aborder dans un second temps le démarrage de cette action et son développement. Mais peut-être que, avant de plonger dans cette action, on pourrait déjà faire le constat qui vous a fait prendre conscience, vous et bien sûr certains citoyens qui ne sont pas des moindres, puisqu'il s'agit des commerçants, de reprendre les choses en main.
Eh bien écoutez, le constat est très simple, hein, il procède de la loi. Il faut savoir que depuis 2008, en France, le commerce peut s'implanter, quelle que soit sa forme, on parle de forme de commerce, que ce soit de la grande distribution ou du commerce de proximité, le commerce peut s'implanter partout dès lors que les documents d'urbanisme le permettent. Il n'y a plus ce que l'on appelait à l'époque les CDEC, les commissions d'équipement commercial, qui avaient pour objectif notamment de vérifier l'impact économique sur le tissu commercial existant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de libéralisation totale, et tout peut se faire n'importe où dès lors que l'urbanisme le permet. Cela veut dire que si cette approche n'est pas réfléchie sous un angle de développement urbanistique, bien évidemment, le commerce va s'implanter partout. Et il y a un point quand même fondamental pour les habitants de ce territoire. Nous avons tous droit, pour une bonne qualité de vie, à des services de proximité. Nous revendiquons tous la possibilité d'avoir au coin de la rue un boulanger, un fleuriste, une librairie, etc., etc. L'idée étant que il faut organiser les choses pour éviter que n'importe où s'implantent des activités qui pourraient concurrencer d'autres activités présentes, notamment dans nos cœurs de ville. Et inversement, il ne faut pas qu'on laisse finalement se développer n'importe quoi qui aurait peut-être plus sa place en périphérie. Donc l'idée, c'est pas d'accuser les uns ou les autres, mais au contraire de jouer les complémentarités et surtout de mettre tout en œuvre pour que nous, consommateurs, nous devenions des conso-acteurs qui permettent effectivement à des commerçants, à des professionnels de proximité de continuer d'exister pour pouvoir rendre des services quotidiens à certaines populations, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exporter, de se transporter jusqu'en périphérie. Et puis, en tant que consommateur, moi je suis très content d'aller acheter mon bouquet de fleurs dans le cœur de ville parce que ça me permet de rencontrer ma voisine, Madame Michu, et d'échanger et de maintenir un lien social finalement entre habitants. C'est ça l'enjeu. Mais si on laisse tout le commerce se périphériser, il n'y aura plus de cœur de ville, et s'il n'y a plus de cœur de ville, il n'y aura plus de lien social. Donc voilà, il faut avoir une approche équilibrée. D'ailleurs, je crois que c'est un des thèmes, une des forces de ce territoire de Biovallée, que d'essayer de trouver un développement durable et équilibré de notre société.
Je voulais savoir justement votre avis de citoyen quant à ce constat qu'on peut faire par rapport à de multiples centres-villes qu'on peut traverser, nous, au quotidien, puisque la vallée, on la pratique un peu dans un sens et puis dans l'autre, le constat de ces centres-villes. Est-ce que c'est transversal ? Il y a un souci au niveau de la vie des centres de villages, de petites villes.
En tout cas, moi, je me suis engagé parce que, effectivement, j'estime qu'on peut effectivement exprimer des désaccords ou des points de vue divergents, mais encore faut-il aussi exercer ses responsabilités de citoyen et d'être force de proposition. Donc, en matière de commerce, comme dans d'autres domaines, effectivement, j'ai pu observer des manques. En tant que, je suis comme tout le monde, hein, je vais acheter mon pain. Il y a des choses présentes, il y a des choses absentes. Et je refuse le fatalisme. Refuse le fait que l'on dise de toute façon le commerce de proximité il y a plus de place pour lui, maintenant il y a internet, maintenant il y a la grande distribution, etc. Je pense que pour peu qu'on essaie d'organiser un peu les choses, qu'on évite d'aller mettre une banque en zone commerciale de périphérie et de préférence la laisser au cœur de ville, hein, plutôt que d'aller mettre des services de santé, on en entend parler de plus en plus fréquemment, encore une fois à proximité du supermarché ou de l'hypermarché, je crois que ça doit rester des locomotives de centre-ville. Et quelque part, la libéralisation dont je parlais tout à l'heure, elle doit avoir une réponse chez les élus. C'est leur responsabilité d'organiser le développement de leur cité dans le cadre de l'urbanisme. L'urbanisme, on le définit clairement, où on veut des lieux d'habitation, où on veut des terres agricoles, où l'on veut des terres économiques, eh bien, il faut que de la même façon, nous disions où nous voulons du commerce. Et quand je vous parlais de consommateurs et plutôt ce que je souhaite des consommateurs, c'est que nous avons le choix, nous, les consommateurs. Nous pouvons dire, faisons un petit effort, allons pas forcément là où c'est le plus facile, où c'est le plus évident, où on peut garer plus facilement sa voiture. Voilà, à nous de changer nos habitudes, devenons consommateurs, devenons des gens qui contribuent à équilibrer l'offre commerciale sur le territoire.
C'est avant tout, en tant qu'élu, Livron, que vous avez pu accueillir certaines remarques, certaines complaintes d'acteurs liés de près ou de loin au commerce qui vous ont fait prendre en main les choses sur Livron, ou bien est-ce que c'est la communauté de communes qui s'est dit, bon, il y a quelque chose, l'aménagement est à revoir, allons interroger les commerçants, allons interroger les artisans qui sont au cœur de la ville.
Donc en fait, le premier engagement, la première vision que j'avais de l'action économique sur ce territoire, que ce soit dans la commune ou que ce soit à l'intercommunalité ou à des échelles beaucoup plus larges, puisqu'on parle du SMDVD et de Biovallée, ben, c'est de réunir les acteurs, de les organiser, de les amener à se fédérer. Quelle a été ma première proposition ? Et c'est tout simplement de relancer une union commerciale, de faire en sorte, plutôt que d'avoir X interlocuteurs face à moi qui chacun ont leurs problèmes, leurs doléances individuelles, le trou dans la chaussée ou dans le trottoir devant ma boutique, essayons de réfléchir ensemble, essayons de nous organiser et de traiter les problèmes. On est dans la même logique avec les acteurs de la Biovallée, où nous fédérons dans l'association de la marque entreprises, associations et collectivités. C'est quand même une nouvelle approche. Ça a été d'ailleurs le très beau retour de cette opération. Ce sont les commerçants qui ont proposé de mettre en œuvre cette opération J'aime Livron. Ils ont été force de proposition.
Aujourd'hui, quand vous réunissez tous ces acteurs, c'est un homme, une voix. Alors, je vais prendre un exemple aussi, qu'un rémouleur. On va prendre un vieux métier, puisqu'on fait partie aussi de zones rurales. Donc, il faut leur rendre hommage à ces vieux métiers qui ont un peu laissé la place en centre-ville. Je parle du rémouleur, mais il y en a des tas d'autres qui ont laissé la place. Donc, des fonds de commerce qui ont été pris par des opticiens, des choses qui sont très en vogue, des cabinets auditifs, des cabinets d'ostéopathie et autres. On peut imaginer quand même qu'il y aura une place pour tout le monde dans les centres-bourgs.
Alors, d'abord, vous me faites penser à quelque chose que j'ai mal exprimé. J'ai parlé beaucoup de commerce, mais quand je pense commerce, je pense également artisanat. Je pense boulangerie. Hein. Boulanger, c'est un commerçant artisan. Je pense à tous ces métiers de l'artisanat, et bien évidemment, et ça nécessite quand même, je pense que c'est important il faut sortir de nos schémas un peu spécialisés, mais je pense qu'il faut que chacun ait bien conscience que les commerçants et les artisans sont effectivement des forces vives de nos territoires, et notamment les vieux métiers. Alors, vous dire que tout a sa place, je ne pourrais pas vous répondre, je ne pourrais pas vous le garantir. Encore une fois, il faut aller vers les besoins les plus prégnants chez les habitants. L'artisanat d'art, en revanche, sur notre territoire, est un enjeu fort, et notamment un enjeu fort dans le domaine touristique, parce qu'il y a des métiers, on a des spécialistes, par exemple, de la réparation de violons sur le territoire, hein, on les connaît tous. Bon, ben voilà, ça, ce sont des choses qui, d'abord, répondent à des marchés très spécifiques, et ensuite, qui peuvent être des vecteurs d'intérêt pour les touristes qui viennent fréquenter nos territoires. Donc voilà, encore une fois, chaque chose peut avoir sa place. Alors pour le rémouleur, je serais bien incapable de vous dire oui, bien sûr, il a sa place, ça nécessiterait qu'on entre un petit peu dans le détail, mais encore une fois, il peut y avoir des activités d'artisanat, et en particulier d'artisanat d'art, qui ont tout à fait une place à prendre, et d'ailleurs, on travaille sur ce territoire à essayer d'organiser des réseaux, hein, on parle beaucoup d'itinérance sur le territoire de la vallée, hein, du Diois jusqu'à la confluence avec la vallée du Rhône. Il est clair que nous avons des thématiques à développer sur l'artisanat d'art en particulier.
J'aimerais aussi aborder une notion, puisque je sais que sur le territoire de Livron, il y a aussi des centres de formation pour les apprentis, et que l'une des issues premières de ces centres de formation, eh ben, c'est que ces jeunes apprentis trouvent des patrons et puis à terme puissent s'installer. Donc ça aussi, ça rentre dans votre réflexion.
Bien évidemment, il est clair que quand vous prenez des métiers de bouche, par exemple, lorsque nous formons des apprentis aux métiers de bouche à Livron, eh bien, encore une fois, nous avons les forces vives à qui nous pouvons communiquer ces informations en leur disant, vous avez, une fois que vous aurez fait votre expérience, parce qu'il y a aussi un petit peu un temps d'acquisition de savoir, mais vous pourrez revenir ici et il y aura de la place pour y mettre des restaurants. On va développer, par exemple, sur l'ensemble de notre territoire, la vélodrome, la véloroute qui va être connectée avec la Via Rhôna. Le premier tracé, le premier morceau de tracé va sortir avant l'été pour qu'on puisse capter les 130 000 touristes qui passent sur la passerelle Livron-Loriol. 130 000 touristes, hein, c'est autant que les visiteurs de la forêt de Soue. C'est vous dire qu'on a un deuxième spot territorial très intéressant sur le plan touristique. Quand vous savez en plus qu'un cyclotouriste, ça dépense entre 60 et 70 euros par jour sur un territoire, je vous laisse imaginer si on capte 10% des touristes qui passent sur les passerelles. Bon, là, on est vraiment sur des choses très concrètes, hein, relocaliser l'économie. Il est évident que si nous arrivons à faire venir des flux de touristes qui viennent découvrir notre vallée, eh ben, bien évidemment, on va favoriser l'installation et développer l'attractivité du marché. Et il faut le faire savoir, et c'est important qu'on en parle, et c'est important que nos habitants prennent la mesure du potentiel de ce territoire. Nous avons une richesse, c'est un pays de cocagne que nous avons entre les mains, et il faut l'aider à exister, à être perçu à sa juste valeur. Parce que je pense effectivement que nous-mêmes, nous avons un déficit d'image de notre perception de notre propre territoire, même si nous l'aimons tous beaucoup, hein, d'ailleurs.
Et je reviens donc sur le métier d'artisan ou sur le métier de commerçant qui ne sont pas des métiers faciles puisqu'ils demandent de gros investissements, des investissements financiers pour démarrer, mais des investissements de temps, d'engagement créatif parfois. Est-ce qu'il est aussi pensé, quand vous rassemblez par exemple tous ces acteurs, le fait de pouvoir organiser peut-être d'adapter certains organes de garde pour leurs enfants, peut-être des gardes qui ont été réfléchis dans le cadre des aménagements des rythmes scolaires, mais voilà, des choses bien pointues pour développer.
Nous avons effectivement, au niveau de la communauté de communes du Val-de-Drôme, pris une compétence il y a quelques temps maintenant qui s'appelle « Petite enfance ». Nous occupons notamment des enfants de 0 à 3 ans et nous avons développé un réseau de micro-crèches sur le territoire. Nous allons avoir, dans le cadre d'une expérimentation, qui se passera sans doute d'ailleurs du côté de la confluence, sans doute une expérimentation, c'est en discussion en tout cas aujourd'hui, sur ce que l'on appelle les horaires atypiques. Et vous êtes au cœur du sujet. Les commerçants sont des travailleurs comme les autres, et qui ont même parfois des contraintes largement supérieures, puisqu'ils sont souvent hommes orchestre dans leur établissement, hein. Ils sont là pour recueillir les livraisons du matin très tôt, mettre en rayon, étiqueter, etc. Et parfois ça dure très tard, après la fermeture de 19h, puisque le commerce traditionnellement ferme après 19h. Donc là vous touchez effectivement du doigt une des populations que nous avons identifiées comme étant potentiellement intéressées par des offres de services de proximité à caractère atypique en termes d'horaire. Et là, c'est une vraie réalité, c'est un vrai besoin exprimé. D'ailleurs, je crois que c'est l'association Aidé qui avait réalisé une étude sur le sujet qui mettait bien en exergue justement les différents publics, notamment aussi les salariés qui peuvent travailler en 3-8 dans les industries du territoire, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de publics que nous avons identifiés, dont les commerçants et dont les artisans font partie.
Est-ce que ça demande de gros investissements, de reconsidérer un petit peu toute cette politique économique? Alors en termes d'aménagement, place de parking, en termes aussi d'engagement auprès des commerçants, puisqu'ils vont aussi devoir peut-être rafraîchir leurs vitrines, refaire un ravalement. Est-ce que c'est un gros engagement pour une municipalité de prendre tout ça en compte?
Moi, je crois que le point de départ, il coûte pas très cher. Le point de départ, c'est quoi? C'est de donner envie et d'essayer d'être vraiment dans la dynamique collective. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les consommateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre service à la population? Ça, ça coûte pas cher. Le deuxième niveau, on a des outils à notre disposition. Je parlais de l'OCMMR tout à l'heure, la fameuse opération collective de maintien et de modernisation du commerce en milieu rural. Eh bien, au cours des années écoulées, nous avons distribué des aides directes pour accompagner les professionnels, pour les aider à améliorer leur vitrine. Et puis après, eh bien, c'est la réflexion sur qu'est-ce qu'un cœur de ville, qu'est-ce qu'un centre-ville aujourd'hui. Et alors là, ça appartient à chaque commune. Ça appartient à chaque commune et puis ça appartient à chaque quatre communes. Sinon, que deviendrons-nous? Ben, nous deviendrons ce que nous craignons de devenir. Des villages dortoirs ou des villes dortoirs, des lieux où finalement des gens vivent individuellement, où l'action collective tend à disparaître. C'est pas ça qu'on veut. Je pense qu'en tant qu'habitant et jeune élu, je peux vous le dire très clairement, c'est pas la vie dont je rêve. Et quelque part, moi je pense que nos communes ont déjà un vrai fondement. Je prends des exemples que je connais bien. Livron, 10 000 habitants, 100 associations. Une association pour 100 habitants. Vous connaissez beaucoup de territoires qui ont une telle diversité. Dans la vallée, on a quand même une vraie richesse, une vraie vivacité du milieu culturel, du milieu associatif, des forces de proposition terribles. Il faut mettre tous ces acteurs en coproduction pour le territoire. Il faut les mettre en action. Et je crois que, quelque part, BioVallée y contribue par l'ouverture et l'association des habitants et en tout cas des acteurs économiques. Je parle pour l'association de la marque BioVallée. Moi, je découvre en permanence une énergie phénoménale qui est au service d'un territoire, certes rural, mais qui, effectivement, a d'énormes potentialités.
On va se rapprocher d'une des opérations qui nous intéresse en ce moment, puisque J'aime Livron s'installe tout au long de la semaine et jusqu'au 15 février, mais au-delà, au travers d'expositions qui vont pouvoir se poursuivre pendant quelques mois encore. On est parti, Radio Saint-Ferré, visiter certains commerçants pour savoir un peu comment eux appréhendaient la fête de la Saint-Valentin. Un petit plongeon de quelques minutes dans la rue.
La Saint-Valentin approche, qu'avez-vous mis en œuvre par rapport à votre commerce pour la Saint-Valentin?
Bah, des différentes actions, ça commence par les vitrines, pour réafficher la Saint-Valentin, parce que les gens oublient, donc moi j'ai tendance à prévenir vraiment très peu de temps à l'avance. Pour moi, plus on avertit court, mieux c'est. Comme ça, tac, ils s'en rappellent. Par contre, ce dont on a averti un petit peu plus à l'avance, c'est qu'on fait une petite animation cette année au magasin, et c'est nouveau, pour des fleurs. Ça ne s'est pas encore fait ici, en tout cas. On a une chanteuse et un chanteur guitariste qui vont venir pour interpréter des chansons d'amour à la demande. Donc, ils ont monté un répertoire. Et les gens vont venir et ça va se passer un petit peu à la bonne franquette. Ça va leur permettre de patienter gentiment en écoutant de la musique, ou pourquoi pas en commandant eux-mêmes de la musique, ou en appelant leur femme en disant « Viens vite chérie, je te dédie une chanson d'amour, ça se passe au Quai Fleury, voilà. »
Vos clients, quel budget passe à peu près
Oh, ça démarre de 7, qui est le prix de la belle rose. Malheureusement, on arrive à des prix qui sont un petit peu fous. Une très belle rose, oui, c'est 7 euros au moment de la Saint-Valentin. Et puis, ça va monter. On n'est pas à Cannes ni à Paris. Il n'y a pas encore de Bretzing qui les achète par 100. Malheureusement, on aimerait bien. Mais ça peut monter jusqu'à 45, 50, un très beau bouquet.
Le fait de la fête de la Saint-Valentin a un réel impact sur votre chiffre d'affaires?
Bien sûr, ça fait partie des fêtes qui restent importantes pour les fleuristes. Le fleuriste commerce indépendant, eh bien, on est encore debout, encore en vie, parce que justement, il y a les fêtes. Et qu'on a une façon de... D'abord, on a une sélection d'articles, on a une qualité qui ne peut pas y avoir quand les fleurs sont vendues en seau dans les supermarchés. Et puis, il y a la sélection des articles avec une grande gamme de prix. Et puis, il y a une manière d'emballer, il y a un tas de choses qui font que quand on reçoit la fleur ou les fleurs, eh ben, on sait que ça vient de chez un fleuriste et c'est une autre qualité que que dans la grande distribution. C'est pour ça qu'on est encore en vie.
La Saint-Valentin approche. Qu'avez-vous mis en œuvre pour cette fête ?
Écoutez, nous, on a fabriqué donc des cœurs en chocolat, des montages. On a garni de chocolat maison. On a fait une vitrine pour ça. Donc, je suis partie sur du rouge et du blanc. C'est un peu les couleurs de la Saint-Valentin, des amoureux. Le jour J, le vendredi 14, donc, il y aura des pâtisseries en forme de cœur et des petites mousselines, des petites choses en macaron, tout forme de cœur, pour deux personnes à 5-6 euros. Donc, c'est des petits prix, voilà, des petites tablettes de chocolat et, en forme de cœur. Et puis, ben, il y a un impact, puisqu'il y a toujours des amoureux, et ça marche toujours, la Saint-Valentin. Ça ne dure qu'une journée, mais ça marche pour les commerçants.
Et quel budget vos clients accordent-ils à peu près pour leurs achats, la
Saint-Valentin ? Oui, c'est ce que je vous disais, à peu près entre 8 et 15 euros. Pas au-delà. Hein. En pâtisserie, en chocolat, pas plus. On ne fait pas des gâteaux pour 8 personnes, donc on fait des petits gâteaux pour 2. Les petits cœurs chocolat sont les montages entre 8 et 15 euros, donc pas plus.
Donc, y a-t-il réellement un impact sur votre chiffre d'affaires ?
Donc, comme ça ne dure qu'une journée, c'est une petite journée. Mais du coup, ça nous fait, au milieu de cette semaine, un peu des fois calme, en février. Ben voilà, on le ressent, on se dit, ah, voilà, c'est la Saint-Valentin. On sent que voilà, y a quand même une augmentation du chiffre d'affaires ce jour-là, quand même.
Déré avec nous pour nous parler de la nouvelle action qui se met en place sur la ville de Livron, qui s'installe encore jusqu'au 15 février pour profiter d'une Saint-Valentin pour voir la vie en rose. Un retour, Laurent, sur ce petit micro-trottoir.
Oui, je crois effectivement que la Saint-Valentin est un moment important de la vie commerciale, hein, des commerçants traditionnels comme des commerçants de grande distribution. C'est un temps où on a envie de faire plaisir, donc il y a effectivement moyen de faire venir dans son commerce, et d'ailleurs c'est le sens de la proposition de l'Union commerciale de Livron, hein, qui était finalement de faire quelque chose d'un peu remarquable pour d'abord attirer l'attention des habitants, mais également attirer l'attention des 18 000 automobilistes qui traversent la ville chaque jour, en leur disant, bah écoutez, regardez, Livron prend les couleurs de Cupidon, et tout ça c'est pour mieux vous dire, venez acheter votre cadeau, je le disais tout à l'heure, chez nous, plutôt que d'aller l'acheter à l'arraché dans le premier supermarché du coin. Voilà le sens de l'action qui contribue à la pérennité du service rendu par le commerçant de proximité. Et d'attirer l'attention aussi des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises ou des commerçants professionnels, en se disant, bah oui, tiens, il y a une place à prendre à Livron parce que le marché existe et que eh bien, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, que les habitants vont aller chercher à satisfaire à Valence ou à Montélimar ou ailleurs. La Maison des Jeunes et de la Culture Coluche, par exemple, qui a largement participé. Ce qui est formidable, c'est que vous avez eu, sur cette opération-là, un vrai élan de bénévolat. Plus de 50 bénévoles ont participé. Alors ça a commencé il y a plusieurs semaines. Il fallait découper des pochoirs, il fallait découper des décorations. L'idée c'était de customiser le centre-ville aux couleurs de l'amour, hein, aux couleurs du cœur, donc le rose. Et puis de pouvoir effectivement mettre en œuvre quelque chose qui épate. Ben, dans la nuit de vendredi à samedi, il y avait une cinquantaine de bénévoles qui ont mis en place ce changement de style pour que les Livronnais se réveille le lendemain matin dans un univers qu'il ne connaissait pas. Je rappelle que une des autres facettes, hein, était aussi de prendre les locaux vacants, de mettre dessus toute une vitrophanie qui permet d'illustrer les produits dont nous avons besoin et qui manquent aujourd'hui dans la commune. Donc vous avez par exemple un magasin de jouets et de biens culturels, vous avez un magasin d'habillement qui est symbolisé avec un côté un petit peu humoristique, hein. L'idée c'est d'interpeller finalement les acteurs. J'attire aussi l'attention que sur nos territoires ruraux, le prix de l'immobilier est encore accessible, et développer une affaire sur les territoires ruraux, ça fait sens parce que les charges sont pas les mêmes que dans les hypercentres des grandes villes. On est sur des territoires, c'était un des objectifs aussi de faire savoir que nous sommes sur des territoires en forte croissance de population. Livron, c'est plus de 2% d'habitants par an dans les 5 ou 6 prochaines années. L'Auriol, c'est 1,5% d'habitants en plus. C'est un salaire médian légèrement supérieur à la moyenne du département, etc., etc. Il y a de la consommation, il y a du potentiel. Je vous parlais des 221 millions d'euros de dépenses des ménages sur ce territoire, dans la zone de Chalandise, Livron-L'Auriol. Ce sont des potentiels que les professionnels ne peuvent pas ignorer. Mais si on ne pousse pas ces informations-là vers eux, peut-être n'auront-ils pas accès à ces informations.
Merci Laurent Deray.
Merci à vous.
Vous serez heureux de retrouver donc tout le programme de cette opération séduction J'aime Livron sur le site internet de la ville de Livron. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt Bye bye.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.